Chapitre 2. En arrivant rue de Sèvres, Pierre Nehart se sentit un peu gêné. L'immeuble qu'habitait Madame Aspy était assez imposant. Le porche, formant passage, était éclairé par des torchères qui, quoiqu'elles fussent neuves, appartenaient à une autre époque. J'aurais dû envoyer un mot d'excuse et ne pas y aller. Ne connaissant personne, il devinait qu'il se trouverait mal à l'aise. Il craignait d'être mêlé à un monde brillant, ayant de la conversation, auprès duquel il eût fait figure d'imbécile. Mais ce qui, en réalité, lui était le plus désagréable, c'était la pensée que les invités savaient quel faible lien l'attachait à Madame Aspy. Néanmoins, il se fit violence. Il y avait trop longtemps qu'il rêvait de pénétrer dans la bonne société pour que l'appréhension du dernier moment eût la force de l'arrêter. Une quinzaine d'invités s'entretenaient déjà dans le salon de Madame Aspy lorsqu'il y pénétra. Alors que celle-ci donnait une impression de vulgarité, la pièce était meublée avec beaucoup de goût. Madame Aspy, en robe de soirée rouge, les cheveux courts et frisés, ce qui donnait à sa tête l'aspect d'une boule, semblait très gaie. Pierre Nehart la reconnaissait difficilement. Elle allait et venait, ouvrait des meubles, disparaissait quelques secondes, revenait en riant. À la voir évoluer, on sentait que son aisance était forcée, qu'elle n'avait pas choisi les couleurs tendres ni les meubles qui l'entouraient, qu'elle vivait là depuis 10 ans peut-être, mais que d'autres gens, plus calmes, l'avaient précédée. Les présentations terminées, monsieur de Petite Pierre vint faire au nouvel arrivant un brin de causette, puis il s'éloigna. Pierre Nehart s'assit à l'écart. Des gens parlaient autour de lui. Il y avait notamment 2 messieurs, un gros et un maigre, réunis par hasard, qui discutaient avec véhémence. « Vous n'avez qu'à faire comme moi, » disait l'un. « Vous commencez petit, vous continuez moyen et vous finissez grand. »« Je ne dis pas que cette méthode est mauvaise, » répondit l'autre, « mais encore faut-il avoir de la chance. » « Mais misérable, tout le monde a de la chance. Elle ressemble au soleil, la chance. Elle appartient à l'humanité tout entière. Évidemment, si vous aimez l'ombre, eh bien restez-y, mais ne soyez pas jaloux de ceux qui préfèrent le soleil. Moi, personnellement, je ne suis jaloux de rien et je n'envie personne. Je le sais bien, mon cher, nous ne parlons pas des présents.
Il ne faut jamais parler des présents, fit une voix fluette.
C'était Mademoiselle Dufaux qui intervenait. Pour cette vieille fille, qui n'avait jamais eu avec le monde d'autre contact que celui de la conversation aimable, les disputes, l'amour, les conseils de famille, enfin tout ce qui est à l'extrême des rapports entre êtres humains, prenait une importance extraordinaire. Entendait-elle un homme dire à un autre qu'il aurait affaire à lui, qu'elle n'en dormait pas. Cette délicatesse ne l'empêchait pourtant pas de potiner. Mais elle le faisait avec une telle innocence apparente qu'on eût dit cet enfant qui crie devant un homme chauve « Regarde, maman, ce monsieur n'a pas de cheveux !» Comme un compositeur aux vêtements minables faisait à présent les frais de la conversation des 2 invités, elle intervint une nouvelle fois.
« C'est très juste ce que vous avancez. Dites donc à Madame Aspy que Madame X ou Y a des dettes partout, qu'elle va se suicider. » Vous pouvez avoir la certitude qu'elle l'invitera chez elle. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens ainsi qui ont un goût étrange pour les anormaux, les déclassés, enfin pour tous les échantillons de basse humanité. J'ai connu un monsieur très bien, un monsieur de notre société. C'était... Laissez-moi me souvenir. En 1905 ou 6... qui, lorsque, par exemple, un assassin était acquitté, courait tout Paris afin de l'inviter. Madame Aspy n'en est pas là, fort heureusement pour elle et pour nous, mais n'empêche qu'elle a un peu ce penchant, cet attrait pour les excentriques, les ratés, pour tous ces jeunes gens qui ont l'air de sortir de l'ordinaire, mais qui ne sont en réalité que des impuissants. »
En entendant ces paroles, Pierre Nehart se sentit encore plus mal à l'aise. Assez enclin à s'imaginer que l'on s'occupait toujours de lui, il crut deviner qu'elles avaient été prononcées à cause de lui. Il baissa la tête et, comme le groupe s'éloignait, ressentit un profond soulagement. « Après tout, je ne suis pas un raté, je gagne peut-être plus d'argent qu'eux, » pensa-t-il par réaction.
mais son bureau de la place Saint-Sulpice, ses carrières encombrées de machines sur lesquelles la pluie tombait, passèrent devant ses yeux. Il se souvint que la compagnie des contremaîtres et des carriers brutaux ne le choquait en rien. « J'ai beau faire, je suis plus près d'eux que de ce monde. » Cette constatation l'emplit d'amertume. Il leva la tête. Près du piano, des jeunes filles riaient. Un invité, paraissant plongé dans de profondes réflexions, passa près de lui. Madame Aspi s'entretenait avec deux vieilles dames. Un jeune homme feuilletait un livre. Monsieur de Petite-Pierre venait de se joindre au groupe de Mademoiselle Dufaux. De temps à autre, un nouvel invité était introduit. Quoique Pierre Neuhart eût peu d'expérience, certains lui semblaient bien bizarres. Il en était un, notamment, petit, maigre, parasé, vêtu d'un complet noir comme on n'en voit pas en France, qui, bien qu'il s'exprimât en une langue incompréhensible, passait d'un groupe à l'autre avec des éclats de voix, des rires, sans s'interrompre un instant de parler ni de gesticuler. Pierre Neuhart ne le quittait pas des yeux. Les courbettes de cet homme, sa suffisance, l'intriguaient. S'il avait osé, il eût demandé qui il était à monsieur de Petite-Pierre qui passait justement à côté de lui. Tout à coup, il entendit derrière lui la voix de madame Aspi. Elle disait « Mais que vous êtes belle, ma petite Eliane! Votre robe est absolument délicieuse. Il n'y a que votre maman pour avoir tant de goût. » « Mais ce n'est pas maman qui l'a faite » entendit-il encore. Il se retourna. Madame Aspi tenait les mains d'une jeune fille. Cette dernière souriait et paraissait embarrassée de cette admiration. Pierre Neuhart se leva. Il eut alors l'impression orgueilleuse de dominer la jeune fille de toute sa grandeur et de toute sa force. Mais le petit homme maigre qui l'avait intrigué passa près de lui, le dévisagea avec insolence et soumission, et, en faisant naître en lui une deuxième fois et aussi brièvement ce sentiment de supériorité physique, détourna un instant l'attention de Pierre Neuhart. Il n'en fallut pas davantage pour que la curiosité de ce dernier se transformât en antipathie et en dégoût. « En voilà un qui a eu de la chance de ne pas être sous mes ordres pendant la guerre !» pensa-t-il. Et sans même s'en rendre compte, il chercha des yeux Eliane. Mais elle avait disparu. Comme avec lassitude, il se rendit à l'autre bout du salon. Il y avait là un divan qu'il n'avait pas aperçu avant à cause du piano. Eliane y était assise entre deux autres jeunes filles qui la prenaient par la taille et dont elle entourait le cou de ses bras. Toutes trois riaient, parlaient, se balançaient, sans se soucier des autres invités. Pierre Neuhart, qui approchait de la quarantaine, eut honte un instant de porter tant d'intérêt à cet enfant, mais soudain il sentit, comme une lumière venue du ciel pour lui seul, le regard d'Eliane posé sur lui. Au même moment, il rougit. Dans le brouillard de la confusion, il vit pourtant la jeune fille détourner les yeux et, sur son visage, naître une expression d'indifférence. Bien qu'il continuât d'avoir le sang à la tête, il eut alors une sensation de froid. Les invités qui l'entouraient prirent brusquement du relief. Il aperçut, derrière les plus proches, d'autres gens encore, et derrière ceux-ci, des tentures et des tableaux. Il se secoua, s'efforça de s'intéresser à ce qui se passait autour de lui. « Vous disiez, madame, » fit un invité qui se trouvait à un pas de lui et qui s'adressait à madame Caturade, une amie de madame Aspi. « Excusez-moi de n'avoir pas suivi votre pensée, mais j'étais distrait par la petite Eliane. Elle sera superbe, cette enfant. Ne croyez-vous pas, madame ?» Pierre Neuhart, malgré lui, la regarda de nouveau. Elle l'avait sans doute suivi des yeux, car, au même instant, elle tourna brusquement la tête. Puis, comme si elle eût été contrariée d'avoir été surprise, elle se leva et alla causer avec un jeune homme. Un sentiment pénible de jalousie s'éveilla en lui. Il voulut s'en défendre. « C'est ridicule tout de même, je ressemble à un collégien. Je ne vais pas, j'espère, tomber amoureux d'une fillette. » « Vous ne dites rien, monsieur Neuhart. Venez donc avec moi. » Cette invitation le soulagea, et ce fut en riant nerveusement, sans raison, qu'il suivit l'hôtesse.
Elle le conduisit auprès d'un groupe de vieilles gens qui parlaient, sur un ton morne, comme d'une chose accomplie depuis des siècles, d'un accident qui avait eu lieu dans la matinée. Il s'agissait d'une automobile qui, après avoir renversé le parapet d'un pont, était tombée dans la Seine.
« Monsieur est un grand industriel. Il pourra vous donner tous les renseignements que vous désirez connaître, » dit Madame Aspi.
Comme ces maîtresses de maison, dont la fierté est de posséder toutes les liqueurs qu'on peut leur demander, elle s'enorgueillissait d'avoir autour d'elle toutes les professions représentées. Et celle d'industriel, justement, était assez difficile à s'assurer. Aussi ne manquait-elle pas de montrer une grande amabilité en l'endroit de Pierre Neuhart, qui, lui, avait l'impression d'usurper un titre. Mais il y avait une autre profession qui ne figurait pas parmi ses relations. Elle avait beau faire les démarches les plus compliquées, elle ne parvenait pas à la découvrir. C'était celle de savant. Elle connaissait des peintres, des docteurs, des architectes, des musiciens, mais, en dépit de ses efforts, l'homme trouvant un remède à un mal jusqu'alors incurable, lui échappait.
« Vous n'êtes pas en rapport avec un savant ? »
demanda-t-elle à tout hasard à Pierre Neuhart, qui hésita d'avouer la vérité, de peur de baisser dans l'estime de son hôtesse. Mais cette crainte était bien inutile, car Madame Aspi, à force d'un succès, ne se faisait aucune illusion sur les réponses. Pierre Neuhart s'était peu à peu ressaisi. L'assurance lui était venue en voyant, peinte sur les visages, une certaine considération pour sa profession, alors qu'à lui, elle n'inspirait que du dégoût. Il s'enhardit, expliqua aux vieilles personnes les raisons de la fragilité du parapet. Mais il pensait toujours à Eliane. Au milieu du concert de voix qui s'élevait derrière lui, il reconnaissait celle de la jeune fille, et quelque chose de mystérieux lui disait que si cette voix, par instant, était plus forte que les autres, c'était pour lui. Comme s'il eût agi par distraction, il se retournait parfois, cherchant des yeux la jeune fille, qu'il finissait par découvrir, tantôt debout, tantôt assise, mais toujours de profil. Sans remuer la tête, elle devinait qu'il la regardait, et ses expressions intermédiaires, qui demeurent sur le visage lorsqu'on est seul, s'évanouissaient pour faire place à un air précis, qu'il fût grave ou rieur.
« Vous avez sans doute de nombreux ouvriers sous vos ordres ?»
demanda une dame dont les mous à propos de rien, la voix chantante, les gestes précieux, dissimulaient mal la curiosité. Pierre Neuhart, qui n'employait qu'une vingtaine de carriers, répondit
« Cela dépend des commandes, madame. »
« Mais dites-moi approximativement, je ne vous demande pas un chiffre précis, c'est simplement pour me faire une idée. 1000, 2000, vous pouvez me dire n'importe quoi, je n'irai pas le contrôler. »
Comme Pierre Neuhart souriait et semblait dire « Que vous êtes curieuse, mais vous ne saurez rien !» elle prit un air de confidence.
« Vous pouvez bien me l'avouer, à moi, cela restera entre nous. »
« 1000, » dit Pierre Neuhart pour en finir. Tout en écoutant son interlocutrice, il s'était sensiblement déplacé de manière à voir Eliane. Mais il dut la chercher longuement avant de la découvrir. Elle s'était assise dans un fauteuil et s'amusait, l'air absent, avec les franges d'un châle. Comme il l'observait, elle s'adossa et, la tête jetée en arrière, fixa son regard sur un tableau à peine visible dans un faux jour. On eût dit qu'abandonnée et triste, elle rêvait. Quittant le groupe où l'avait conduit Madame Aspi, Pierre Neuhart se dirigea vers la jeune fille, mais en paraissant s'intéresser surtout à deux invités qui parlaient à quelques pas d'elle. Lorsqu'il se trouva à sa hauteur, il tourna la tête dans sa direction. Au même instant, comme si elle eût ignoré sa présence, elle ferma les yeux.
« Vous flânez, Monsieur Neuhart ?» demanda à ce moment M. de Petite-Pierre,
qui, toujours seul, trouvait du plaisir à aller d'un invité à l'autre, à seule fin d'échanger une parole aimable.
« En effet !»
Il y eut un silence entre les deux hommes. Puis M. de Petite-Pierre continua « Ce ne doit pas être une chose aisée de diriger et de contenter tous vos ouvriers. » À ce moment, Pierre Neuhart regarda Eliane. Elle venait de se redresser et après s'être étirée comme si elle eût dormi, elle se leva, s'approcha d'un groupe d'élèves de Madame Aspi et dit brusquement, ainsi que l'eût fait une jeune fille venant de s'amuser ailleurs,
« On devrait danser. J'adore Charlestonnet. »
Pierre Neuhart aperçut devant lui Monsieur de Petite-Pierre qui attendait une réponse.
« Non, ce n'est pas tellement difficile. »
« J'ai pourtant un ami, vous avez sans doute entendu parler de lui, Balder, François Balder, les automobiles Balder. Il n'est d'ailleurs plus à la tête de l'usine. Une société a repris l'affaire et il en demeure le président afin que le nom reste. Il s'est retiré à présent à Port-Loup où il fait de l'élevage, tout à fait en amateur car il possède une fortune rondelette et n'a pas besoin de cela. Je vais d'ailleurs le voir assez souvent dans sa propriété. » Nous sommes de très bons amis, nous nous tutoyons et il ne se passe pas une année que nous ne nous voyons. Il a d'ailleurs toujours aimé la campagne. Il me le disait encore l'hiver dernier lorsque j'ai été le voir. Eh bien, mon ami Balder avait sous ses ordres, et je vous parle de bien avant la guerre, plus de 3000 ouvriers. Croyez-moi si vous voulez, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le doigté dont il devait faire preuve. Pour un rien, ces hommes le menaçaient de grève. Et une grève, vous devez en savoir quelque chose, il ne faut pas qu'elle dure longtemps pour que les bénéfices d'une année se volatilisent. Production arrêtée d'une part, n'est-ce pas? Et d'autre part, frais qui continuent à courir. Cela conduit droit au gouffre. Pierre Neuhart chercha encore des yeux Eliane. Il vit le fauteuil où elle s'était assise, les élèves à qui elle avait parlé et qu'elle avait sans doute quitté pour montrer qu'elle n'aimait pas la compagnie de la jeunesse, qu'elle préférait la solitude. Madame Aspi, causant avec le petit homme maigre et sale, un monsieur pourtant beau, qui, les jambes croisées, caressait son cou de pied avec amour. La jeune fille demeurait invisible. La crainte qu'elle ne fût partie à son insu le fit pâlir. Malgré lui, il se retourna avec vivacité, comme si quelqu'un se fût avancé sur la pointe du pied derrière lui. Elle s'entretenait avec le groupe de vieilles dames qu'il avait délaissé il y avait un instant. Cette fois, elle était placée de manière à le voir sans qu'il le sût. Il eut honte de s'être retourné si brusquement et crut discerner sur le visage d'Eliane un sourire moqueur. « Elle demande certainement à ces gens ce que j'ai pu leur raconter tout à l'heure, » pensa-t-il. Il essaya de se remémorer toutes ces paroles, mais il était si nerveux que la patience lui manqua. Monsieur de Petite-Pierre continuait à parler de son ami Balder, mais comme il s'apercevait de la distraction de son interlocuteur, il ne disait de lui que des choses insignifiantes pour n'avoir pas à répéter les grandes lorsque Pierre Neuhart prêterait attention à ses paroles. Une fois seul, celui-ci s'assit à une place d'où il découvrait le salon entier. Eliane avait quitté les vieilles gens et, indécise, semblait ne pas savoir que faire, lorsqu'un invité, celui-là même qui avait caressé son cou de pied, s'approcha d'elle. « Vous avez l'air toute décontenancée, mon enfant, » lui dit-il immédiatement. Pierre Neuhart espérait qu'Eliane allait répondre froidement, mais ce fut avec une joie apparente qu'elle l'invita à venir s'asseoir près d'elle, sur un divan qui se trouvait justement tout proche.
« Vous êtes vraiment gentil, monsieur, de vouloir bien me tenir compagnie, » dit-elle. « Je suis toute seule. Personne ne s'occupe de moi. On me laisse dans un coin et on ne me dit rien. Mais vous, vous êtes gentil au moins. »
Ces paroles furent un supplice pour Pierre Neuhart. Il se mordit les lèvres pour que la douleur qu'il éprouvait fût causée par autre chose, mais cela n'y fit rien. De temps en temps, il jetait un coup d'œil sur Eliane. Il la voyait, alors, regarder de ses grands yeux bleus son interlocuteur. Pas une fois, elle ne détourna son regard. Si elle riait, si elle faisait une moue, si une expression grave embrunissait son visage, ses yeux n'en demeuraient pas moins candidement fixés sur l'invité.
« Vous êtes une petite merveille dans votre robe, » dit celui-ci.
« Vous trouvez, monsieur. Pourtant, vous savez, elle est pleine de défauts. « Regardez ces plis, ils sont plus bas de ce côté que de l'autre. Ce ruban ne me plaît pas non plus, il est trop long. Et maman ne veut pas que je le coupe. Elle dit que c'est comme ça qu'il doit être. »
Pierre Neuhart ne put supporter davantage cette conversation. Il se leva, marcha un peu, fit un détour pour éviter M. de Petite-Pierre qui se dirigeait vers lui. Lorsqu'il se fut éloigné le plus possible de la jeune fille, il la regarda. Elle fixait toujours ses yeux sur son interlocuteur. Mais à quelque chose d'inexprimable, à leur fixité plus grande peut-être, il sentit qu'elle se savait observer. Il revint au fauteuil qu'il venait de quitter.
« Monsieur, disait-elle, je n'ai pas beaucoup de camarades jeunes filles. »
Pierre Neuhart venait à peine de s'asseoir, qu'Eliane se leva.
« Il faut que je m'en aille, monsieur. »«
Mais restez donc encore un peu. »
« Comme vous êtes drôle, je vous dis qu'il faut que je m'en aille. Maman est très gentille, mais elle ne veut pas que je rentre après 11 heures. »
Eliane s'approcha de Madame Aspi.
« Je dois rentrer de bonne heure, » entendit encore Pierre Neuhart. « Ma mère serait inquiète. »« Mais partez vite alors, mon enfant, ne donnez pas de soucis à votre maman. »
Pierre ne savait que faire. Heureux d'une part que la jeune fille eût quitté cet invité qui lui portait sur les nerfs, il appréhendait d'autre part de la perdre à tout jamais. Il se leva à son tour, simulant une grande lassitude. Cependant qu'Eliane allait s'entretenir avec ses amis, il s'en fut prendre congé de Madame Aspi. Elle voulut le retenir, mais il prétexta une forte migraine pour persister dans sa décision. Tout en parlant lentement, comme s'il s'en allait à contre-cœur, il surveillait la jeune fille, craignant à présent qu'elle ne partît avant lui ou en même temps. « Je sortirai le premier, » avait-il calculé, « et je descendrai lentement l'escalier comme si j'étais très fatigué. Elle me rattrapera et alors je lui parlerai. » Lorsqu'il se trouva au rez-de-chaussée, Pierre Neuhart s'arrêta et, retenant son souffle, écouta. Des lumières, emprisonnées dans des boules de verre, éclairaient le vestibule. Aucun bruit ne venait jusqu'à lui. Il sentait son cœur battre, mais il ne l'entendait pas. Plusieurs minutes durant, il resta ainsi, tremblant de peur et d'émotion, puis il gravit un étage afin de le redescendre une nouvelle fois très lentement. Lorsqu'il se retrouva dans le couloir d'entrée, il lui apparut tout à coup qu'il ne pouvait plus demeurer là. Une dernière fois, il écouta si Eliane ne venait pas, puis il sortit dans la rue. Il faisait frais. Le ciel, bien qu'il fût constellé, était sombre. Un vent léger courait le long de la rue déserte. « Je vais l'effrayer, cet enfant, » pensa-t-il. « Je suis tout de même ridicule. Je n'avais qu'à lui parler chez Madame Aspi. » Il traversa la rue et regarda les fenêtres du troisième étage. Elles étaient illuminées. Tamisé par les vitres, des bruits de voix, des éclats de rire s'échappaient vers la nuit. Un instant, la pensée de remonter chez Madame Aspi lui vint à l'esprit. « Non, non, je ne peux pas le faire. Et d'ailleurs, juste au moment où je pénétrerai chez elle, Eliane sortira. J'ai agi comme un enfant. » Mais une supposition le ranima. Il lui semblait à présent que si la jeune fille, après avoir tellement insisté sur l'urgence de son départ, s'était quand même attardée auprès de ses camarades, à qui cependant elle ne vouait qu'une médiocre sympathie, ça avait été pour lui permettre de la devancer et de l'attendre. Il retraversa la rue, se posta devant l'entrée de l'immeuble et fit semblant de chercher dans ses poches, afin qu'au cas où elle paraîtrait à ce moment, il eût une excuse de rester ainsi immobile. Soudain, il sentit une bouffée de chaleur lui monter à la tête. « Elle serait déjà là si c'était vrai. Je suis fou de me faire des idées pareilles. Elle ne sait même pas que j'existe. Elle va sortir, oui, dans un instant, mais accompagnée de quelqu'un, du monsieur, justement, qui tenait tant à savoir si elle avait des amis. Ou bien elle attend sa mère qui doit venir la chercher. Ce sera bien plus drôle et bien plus logique. » Car, après tout, je ne m'explique pas comment une jeune fille peut être aussi libre et rentrer chez elle toute seule à 11 heures du soir. Pierre Neuhart était dans un état de telle nervosité qu'il songea un instant à partir, à marcher droit devant lui, sans penser, pour tout oublier, à finir la nuit n'importe où, mais loin de tout ce qui pouvait lui rappeler la jeune fille. Il n'en eut pourtant pas le courage. Soudain, il lui sembla que la grande et lourde porte noire de l'immeuble s'ouvrait lentement. Avant de découvrir la personne qui l'attirait, il eut eu le temps de prendre une attitude, de marcher, de se donner une occupation. Mais il ne bougea pas, les yeux fixés sur l'ouverture qui s'élargissait, sans qu'il lui vînt seulement l'idée qu'il pourrait se trouver face à face avec M. de Petite-Pierre ou Mlle Dufaux. Il regardait l'obscurité à la hauteur de sa poitrine pour voir tout de suite sortir de l'ombre le visage de la jeune fille, lorsque celle-ci parut, tout à coup, plus haut, car ce n'était qu'une petite porte encastrée dans un battant qui s'était ouverte, et Eliane, au lieu d'enjamber la traverse du bas, était montée dessus. Elle sauta dans la rue. Ce détail insignifiant prit une telle importance à ses yeux que, machinalement, il dit, et ce fut la première parole qu'il adressa à la jeune fille, « Vous étiez montée sur la traverse ?» Elle ne répondit pas, et seulement après qu'il eut prononcé ces mots, parut étonnée qu'il fût là. Pierre Nehard ne savait quelle contenance adopter, en même temps qu'une joie profonde le détendait, qu'elle fût ainsi seule auprès de lui. Il n'osait pourtant prononcer une autre parole. Quant à Eliane, elle semblait même plus à l'aise que chez Madame Aspy, où elle avait eu, par moments, une certaine timidité. Elle était naturelle, et tout dans son attitude disait qu'elle eût craint de commettre une impolitesse en quittant brusquement cet homme auprès de qui elle était une enfant. La gêne, au lieu de courber sa tête et de rougir ses joues, lui donnait au contraire un certain air de bravade. Elle leva vers Pierre Nehard des yeux candides.
« J'étais sûre que vous m'attendiez, » dit-elle en souriant. « Vous êtes comme ma mère, vous ne voulez pas que je rentre toute seule le soir. »
Cet intérêt, elle paraissait le trouver tout naturel. Aucune méfiance ne se lisait sur son visage. Elle simulait d'ignorer les véritables raisons de cette attente, de croire qu'elles étaient semblables à celles qui eussent incité un parent ou un ami de la famille à l'attendre.
« Vous savez, » continua-t-elle, « si cela vous amuse de m'accompagner jusque chez moi, je ne vous le défends pas. Mais si cela vous ennuie, il ne faut pas vous gêner. J'ai l'habitude de sortir le soir. Maman a les idées très larges, et je n'ai jamais peur de rentrer seule. »
« Votre mère vous laisse sortir comme vous voulez, alors ?»«
Mais naturellement !»«
Vous êtes une enfant, pourtant, » fit Pierre que ses contradictions étonnaient. « Je ne sais pas votre âge, mais vous n'avez certainement pas 20 ans. »«
J'ai 17 ans, ou plutôt, j'ai eu 17 ans il y a 2 mois. »«
Et vous sortez le soir toute seule ?»
Elle regarda Pierre Nehart avec étonnement.
« Quel mal y a-t-il ?»
Tout en parlant, elle avait fait une centaine de pas dans la direction opposée à celle de son domicile. Tout à coup, imitant celle qui s'aperçoit d'une erreur, elle s'exclama
« Mais c'est moi qui vous accompagne, monsieur. Vous allez sans doute par là, moi je rentre. »
« Ce n'est donc pas votre chemin ?»«
Non, non, non. »
Pierre Nehart put comprendre que c'était à cause du respect qu'il lui inspirait qu'elle l'avait suivi. Il en fut profondément touché. Comme j'ai pris sans hésiter cette direction, pensa-t-il, elle n'a pas osé me faire remarquer que ce n'était pas la sienne. Ils firent demi-tour. En repassant devant l'immeuble de Madame Aspy, Eliane dit
« Nous allons tomber, vous allez voir, sur mes camarades. »
« Sur vos camarades, jeune fille. »
« Alors, vous écoutez ce que je disais ? Où étiez-vous donc, monsieur ? Je ne vous ai vu qu'une seule fois au moment où vous parliez à monsieur de Petite-Pierre. »
Mais Pierre Nehard n'entendit pas ces paroles. Il venait de lui apparaître qu'en effet, on pouvait rencontrer des invités de Madame Aspy, connaissant mieux Eliane que lui, et pour lesquels elle l'eût peut-être brusquement quitté. « Vous savez qu'il est tard, dit-il. Nous devrions marcher un peu plus vite. Votre mère sera inquiète. »«
Elle dort, maman. »
Pierre Nehart avait complètement oublié qui il était. Il avait l'impression, comme dans un rêve, que des événements extraordinaires allaient le rendre, dans un instant, sans qu'il pût dès à présent le prévoir, le plus heureux ou le plus malheureux des hommes. Il se demandait si réellement il n'était pas seul, tellement la solitude lui semblait plus réelle que cette présence à son côté. Il se tournait alors et, en apercevant Eliane, son cœur battait. Cette jeune fille, qui avait fait tant de zigzags dans le salon de Madame Aspy, qui s'était assise, levée, arrêtée, marchait à présent à sa hauteur, à son pas, vers le même endroit. Cela lui semblait tellement incroyable que, de nouveau, il doutait de sa présence. Il la regardait encore. Elle était là, elle avançait toujours. « Vous habitez sans doute par ici ?» demanda-t-il.
« Rue Rosa Bonheur. »
« Quel joli nom d'actrice !»«
De peintresse, vous voulez dire ?»
Il rougit de son ignorance et se tut. Eliane ne remarqua rien, tellement occupée qu'elle était à cacher sa jeunesse. Elle voulait être à l'aise, d'autant plus qu'à mesure qu'elle s'éloignait de l'immeuble de Madame Aspy, la légèreté de son attitude se montrait à elle plus nettement et la rendait honteuse. Maintenant, elle ne parlait plus que par monosyllabes, tout en conservant pourtant un visage affable. De temps en temps, lorsqu'une lumière les éclairait, elle levait la tête et regardait son compagnon, comme si elle l'eût connu dans la nuit et qu'elle eût voulu savoir quel était son visage. Malgré les efforts qu'elle faisait, elle montrait qu'il lui en imposait. Qu'un homme de cet âge, ayant une situation qu'elle supposait beaucoup plus importante, eût pour elle tant d'attention, la flattait. Elle s'appliquait à mériter ses égards. Bien qu'elle sût qu'elle était belle, elle était loin de croire, à cause de sa jeunesse, que cela suffisait à provoquer un tel intérêt. Aussi avait-elle à présent le sentiment de décevoir, et, quand leurs regards se rencontraient, y avait-il plus d'humilité dans le sien ? En arrivant devant la maison qu'elle habitait avec sa mère, elle s'arrêta. La façade était triste et passée.
« Je vais vous quitter ici, monsieur. Je vous remercie de m'avoir accompagnée. »
Comme Pierre Neuhart regardait la maison pour s'en souvenir, elle ajouta
« Vous ne connaîtriez pas un appartement ? Maman et moi, nous en cherchons un depuis des années. »
« Vous étiez toute petite, alors ?»«
Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas ? Mais il y a longtemps que je suis comme maintenant. J'ai grandi très jeune. »«
Si, si, je vais m'en occuper, » dit Pierre Neuhart, que cette demande comblait de plaisir, parce qu'elle lui fournissait un prétexte à entretenir des relations avec la jeune fille. « Demain, je vais voir des amis. Voulez-vous que nous nous retrouvions après-demain ? Où voulez-vous ?»
« Je n'en ai aucune idée, monsieur. »«
Cela vous est égal que je vous attende chez Old India, place de la Madeleine, par exemple, vers 4 heures ?»«
Si vous voulez, mais il faut que je rentre maintenant. »
Elle sonna, ses yeux brillaient. Il remarqua qu'elle tremblait et crut qu'elle allait pleurer. Comme elle lui tendit la main, il la prit doucement, en la suppliant de venir sûrement. Elle ne répondit pas, et tout à coup, il sentit qu'elle le serrait à lui faire mal. Mais il n'eut pas le temps de lui dire un mot, elle s'était sauvée aussitôt.